Par autorisation spéciale de la commission du même nom, la Java des bombes atomiques.
Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie. Question travaux pratiques.
Bonjour, vous êtes sur Atomic Mac, l'émission mensuelle de Stop Nucléaire Drôme Ardèche. Aujourd'hui, nous concluons à 3 semaines du scrutin nos émissions spéciales présidentielles. Avec pour invité au téléphone, en principe, parce qu'on a un petit problème pour le joindre, Monsieur Benoît, représentant du mouvement En Marche pour la Drôme, et son candidat Emmanuel Macron. Rappelons que nous avons proposé à tous les candidats ou à leurs représentants de bénéficier de 10 minutes chacun pour exposer leur programme concernant le nucléaire. Nous avons reçu en février Yannick Jadot pour Europe Écologie Les Verts, le candidat Jean-Luc Mélenchon pour Les Insoumis, Philippe Poutou pour le NPA. En mars, nous avons reçu le PS pour Benoît Hamon et Lutte Ouvrière pour Nathalie Herthaud. Les autres candidats ne nous ont pas répondu. Nous ferons en deuxième partie d'émission un petit résumé de leur programme nucléaire. Mais avant tout cela, nos billettistes sont sur la brèche et Georges va nous lire un message du Japon.
Oui, enchanté, chers auditeurs et auditrices, bonjour. Avant de vous lire ce message, je vais vous donner quelques informations très succinctes sur le Japon. Alors tout d'abord, Itate, commune rouverte à l'habitat sous peu, malgré un investissement colossal de plus d'1,7 milliard d'euros pour la reconstruction des divers équipements publics, n'accueillera pas le nombre de résidents escomptés. Ensuite, 200 tonnes de corium perdues près de la centrale de Fukushima sont recherchées par TEPCO avec des muons cosmiques et non localisés à ce jour. Enfin, en janvier de cette année, une radioactivité de 530 sieverts par heure, qui est une dose létale immédiate, mortelle, a été détectée par des robots sous le réacteur numéro 2. Voilà, c'était manière de donner des informations récentes. Maintenant, le texte de Yoshihiro Ozawa, qui est un membre de l'équipe de témoignage de NAMI, que nous avons reçu récemment à Valence. Alors ce texte dit « Nous sommes de la commune de Nami, dont la population entière a été évacuée il y a 6 ans, suite à l'accident nucléaire de Fukushima Daiichi, qui a suivi le grand séisme à l'est du Japon. Nami est une commune étendue entre 5 et 40 km de la centrale nucléaire. Ce 31 mars 2017, l'ordre d'évacuation sera levé à Nami, sauf pour une partie qui restera classée comme zone où le retour est difficile. » C'est la volonté forte du gouvernement central qui a entraîné cette décision. En acceptant cette décision, le maire de Nami est devenu la cible de critiques sévères, à la fois de l'intérieur et de l'extérieur de la commune. Les habitants de Nami sont agités de sentiments divers. Il y a de la colère contre la non-prise en compte des avis de la population. Celle-ci considère que l'objectif des réunions de consultation était simplement de calmer le jeu. Il y a de la résignation chez ceux qui disent que c'était décidé par avance. C'est en larmes que le maire a déclaré la levée de l'ordre d'évacuation. Cette déclaration aurait dû être accompagnée de joie et non pas de larmes, puisque cela devrait signifier que nous pouvions finalement rentrer chez nous. Il semble que si le maire a pleuré, c'est qu'on l'a obligé de prendre cette décision. Face au désastre nucléaire, rien n'est clair pour nous. Certains disent que la nourriture de la région de Fukushima est dangereuse. Certains disent que non, elle est sans risque. Les uns disent que les cancers de la thyroïde sont dus à l'accident, d'autres disent qu'il n'y a pas de lien de causalité. Tantôt on nous dit qu'il n'y a plus d'émissions de radioactivité depuis la centrale nucléaire endommagée, tantôt si. Il n'y a plus personne en qui nous pouvons avoir confiance. Immédiatement après l'accident, les médias ont fui Fukushima, puis ils ont mis les actualités à partir de Tokyo en disant qu'il n'y avait rien à craindre à Fukushima. Le seuil internationalement accepté de radioactivité pour la santé publique est 1 millisievert par an. Pourtant, le seuil a été augmenté jusqu'à 20 millisieverts pour la population de Fukushima sans justification. Le gouvernement central nous dit de retourner à Nami puisque maintenant c'est sans risque sanitaire. La radioactivité étant descendue au-dessous de 20 millisieverts par an. Aujourd'hui, parmi la population de Fukushima, 104 000 personnes évacuées de force et auto-évacuées à l'intérieur et à l'extérieur du département de Fukushima, vivent encore comme réfugiés nucléaires. Ce nombre va sans doute diminuer au fil du temps. Cependant, indépendamment de notre décision de retourner ou de ne pas retourner dans notre région natale, suite à la levée de l'ordre d'évacuation, nous allons continuer à errer éternellement entre la méfiance et l'angoisse. Une vie de réfugié à perpétuité, voilà ce que signifie l'évacuation suite à l'accident nucléaire. Ce que nous souhaitons vivement, c'est que personne d'autre dans le monde ne vive la même souffrance que nous. Yoshihiro Ozawa.
Eh bien, merci, Georges. Effectivement, c'était une soirée mémorable et ils nous ont beaucoup émus en lisant ce message. On est donc très heureux que tu aies pu nous le repasser. Jeanne, merci. Tu as des petites colères.
Alors, moi, je vais vous parler du démantèlement. Donc, les centrales nucléaires françaises vieillissent et même si EDF tente de reculer leur durée d'exploitation, le problème qui s'annonce, c'est celui du démantèlement. Aussi incroyable que ça puisse paraître, les premières centrales ont été construites comme si elles ne devaient jamais être démantelées, ce qui conduit à de réelles difficultés techniques. Après l'extraction du combustible, tout le bâtiment et les matériels sont irradiés. Les ingénieurs avaient laissé de côté ce problème des déchets.
Alors, comment peut-on s'expliquer une telle marche en avant sans soucier des conséquences ?
Parce que la priorité, c'était l'émulation pour faire des découvertes scientifiques et industrialiser la filière nucléaire. Le nucléaire représente un réel attrait scientifique pour les chercheurs. C'est une technologie ambitieuse et arrogante. Un rapport parlementaire a été présenté le 1er février 2017 à l'Assemblée nationale qui épingle le manque d'anticipation d'EDF à propos des difficultés techniques de la déconstruction et la minoration des provisions pour financer ce grand chantier qu'il cherche à repousser à plus tard.
Alors, quelles sont les difficultés techniques ?
Alors, premier exemple, le démantèlement interminable de la centrale de Brennilis, qui est la seule à l'eau lourde. 18 ans d'exploitation. Le chantier ne devrait s'achever qu'en 2032, selon EDF, soit 47 ans de démantèlement. Et pourrait coûter jusqu'à 482 millions d'euros, soit un montant 20 fois supérieur à l'évaluation de 1985. Deuxième exemple, Superphénix, réacteur à neutrons rapides et refroidi au sodium. EDF ne prévoit pas d'en venir à bout avant 2028 pour un coût évalué à 2 milliards d'euros par le physicien Bernard Laponche. Troisième exemple, le démantèlement des 9 réacteurs de la filière uranium naturel graphite gaz s'annonce mal. En juin 2016, EDF a indiqué qu'elle renonçait à démanteler sous eau et que par conséquent, le démantèlement se ferait au 22e siècle.
Et pourquoi donc EDF a renoncé à démanteler sous eau ?
EDF avait choisi le démantèlement sous eau depuis 10 ans parce qu'elle comptait se servir de l'expérience des États-Unis qui sont les seuls à avoir démantelé un réacteur de la filière uranium naturel graphite gaz. Mais l'expérience n'est pas transposable parce que les réacteurs français ont beaucoup plus servi. Il y a peut-être une autre raison, c'est le coût, parce qu'EDF ne démantèle pas, elle lance des appels d'offres et la facture était peut-être trop salée. Le dernier exemple concerne le démantèlement des 58 réacteurs à eau pressurisée. EDF est très confiant car elle compte se servir de l'expérience des États-Unis et réaliser des économies grâce à la standardisation. Cette standardisation permettrait de diminuer les coûts de 10 à 40%. Le représentant syndical, auditionné par les parlementaires, n'y croit pas. Chaque réacteur a son histoire, ses incidents, qui peuvent obliger à adapter le démantèlement. Bernard Laponche rappelle que pour la construction de ces réacteurs, chaque réacteur a été plus cher que le réacteur précédent, contrairement aux prévisions.
Oui, ça on le voit avec l'EPR. Alors, on parle justement d'un manque de provisions par EDF
voilà.
De ce démantèlement.
EDF ne prévoit que 350 millions d'euros par réacteur, alors que les autres exploitants européens prévoient entre 900 millions et 1,3 milliard, soit 2,6 à 3,6 fois plus élevé. L'État et EDF doivent définir une politique de démantèlement et un agenda précis, mais c'est toujours la fuite en avant, malgré les pièces défectueuses, le vieillissement, le surplus d'électricité nucléaire qui ne sert à rien. On exporte à bas prix et quand il fait froid, on importe en payant le maximum. On pourrait commencer le démantèlement et réduire le parc nucléaire sans que ça pose le moindre problème à la demande électrique française.
Eh bien, merci Jeanne. Eh bien, maintenant, nous allons pouvoir écouter un chanteur qu'on aime beaucoup ici à Atomic Mac, Alpha Blondy, avec un titre qui s'appelle « Science sans conscience, tout est dit ». «
violence. L'homme découvre son impuissance. Appelle à l'aide le maître du temps. C'est un SOS si tu m'entends. Je vous dis
science, oh yeah. Sans conscience.
Les océans sont radioactifs, avec les missiles qui réfléchissent. La terre entière s'asphyxie, c'est un vrai suicide collectif. Fouillé.
Science, sans conscience, n'est que ruine de l'âme. Science, sans conscience, n'est que ruine, c'est l'âme.
En balistique, et je me méfie de cette politique. Armes chimiques ou bactériologiques défient toutes les lois de la logique. Je vous dis
science, sans conscience, n'est que ruine de l'âme. Science, sans conscience, n'est que ruine de l'âme.
Bonjour, vous êtes toujours sur Atomic Mac. Alors, nous recevons Monsieur Grégoire pour l'organisation En Marche, représentant le candidat Emmanuel Macron. Monsieur Grégoire, vous m'entendez ?
Oui, je vous entends.
Oui, bonjour. On a eu une petite peur de ne pas vous avoir au bon moment. Alors, on a 10 minutes, comme on l'a accordé à tous les candidats. En première partie, un petit peu, est-ce que, en quelques minutes, vous pouvez nous résumer le programme d'Emmanuel Macron concernant l'industrie nucléaire civile ? Et puis, on fera peut-être un petit point sur le nucléaire militaire après.
Ah ben, sur l'industrie nucléaire civile, d'abord, bon, le principal engagement, c'est de dire que il y aurait réduction à 50% de la part du nucléaire dans l'énergie civile, donc à l'échéance 2025. Hein, donc je pense que ça, c'est le premier élément. Deuxièmement, c'est la création d'un fonds pour le développement industriel des énergies renouvelables et de l'innovation, donc à hauteur de 10 milliards d'euros. Hein, donc qu'il a été proposé, hein. Et donc là on est c'est les deux principales orientations que le programme dans sa généralité a pu proposer, quoi.
Alors, si vous dites 50% à échéance 2025, de 2025, c'est pas une date choisie pour rien. Elle tintinabule à nos oreilles, à nous. C'est la date à peu près limite où une grande partie de nos réacteurs, sur les 58, presque 80% de ces réacteurs à 2025 auront atteint l'âge soit de 30 ans, soit de 40 ans. Donc 50%, ça veut dire que vous allez fermer quasiment tous les réacteurs qui sont les plus anciens ?
Écoutez, moi je dis simplement qu'aujourd'hui, il prend cet engagement. L'objectif qui est avancé et qui est dans la personnalité d'Emmanuel Macron, c'est de ne pas faire comme on a pu faire à d'autres époques, d'annoncer des choses qu'on ne tient pas. Donc 50%, c'est tenable en ayant les années devant nous pour investir dans la substitution. Voilà. Donc, après, comment les arbitrages se feront par rapport à des réacteurs existants, Moi, je ne sais pas vous dire. Je pense qu'effectivement, la règle sera par rapport à, aux outils les plus vétustes, les plus anciens, quoi. En tout cas, ceux qui nécessitent d'être mis à la retraite, hein, je puis dire.
Ouais, parce qu'on sait qu'après Fukushima, donc, et l'Europe et l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, ont décidé que EDF devait repasser un examen de chacune de chacun de ses réacteurs pour aller au-delà de 40 ans. C'est ce qu'on appelle le fameux grand carénage qui va être extrêmement coûteux. Hein. On parle de 100 millions d'euros par grand carénage. Il est évident que dans ces cas-là, le plus simple serait peut-être de fermer les réacteurs les plus anciens. On parle, et dans notre département, oui, parce que ça nous concerne, dans notre département, ça voudrait dire que Tricastin, Bugey, et même Cruas serait concerné.
Je ne peux pas vous répondre sur la programmation et sur ceux qui seraient concernés. La question aussi est liée aux emplois, est liée à l'économie périphérique autour donc, de cette industrie, sachant qu'il y a aussi beaucoup à faire dans la reconversion des sites. Hein, donc, il faut voir ça aussi en positif, moi je trouve. Hein, Et je pense que très tôt, il faut travailler à voir comment on réadapte hein, les sites concernés, mais j'en ai pas la liste, donc je peux pas vous dire ce que je ne sais pas, par des plans de restructuration de ces sites, de manière à ce que, territorialement, eh bien, les incidences soient les moins prégnantes possibles. On l'a vécu... dans les années, quelques décennies en arrière avec le charbon, on l'a vécu un peu plus récemment avec les aciéries et les hauts fourneaux. Certainement qu'il y aura des révolutions industrielles, oui, à faire autour de la question nucléaire. Mmh. Voilà. Après, je pense que la logique d'Emmanuel Macron, ce n'est pas d'afficher, comment dire, des ambitions pas tenables, voilà, parce que tout simplement, eh bien, chaque fois que on fait des choix comme cela, il faut trouver la bonne réponse de substitution, et donc aujourd'hui, à partir du moment où l'économie, quoi qu'on en dise et quoi qu'on en pense, hein, d'ailleurs, une économie qui ne dépend plus que de nous-mêmes, hein, eh bien, il est réaliste d'avoir des visions, j'allais dire réalistes, et d'essayer d'avoir une gestion tenable qui soit pas des fausses promesses et que on puisse, au bout de l'échéance annoncée, eh bien, avoir l'avoir tenu. Quoi.
Mais, alors, on vous entend bien, effectivement, ça peut être intéressant de dire on propose pas tout bien ficelé, ce qui veut dire que dans ce cas-là, si Emmanuel Macron était élu, un débat sur le nucléaire, région par région, aurait lieu avec les différents intervenants pour savoir quel type de réacteur fermer, dans quelles conditions, comment, etc.
Emmanuel Macron n'est pas encore président, j'espère qu'il le sera.
On pense que chacun veut l'être.
Ouais. Ce que j'espère aussi, c'est que dans la méthode, on change. C'est-à-dire qu'on ait une logique plus partenariale, plus transversale, avant de prendre des décisions. Après, vous le savez comme moi, que ce soit pour le nucléaire civil ou le nucléaire militaire, y a des enjeux régaliens qui parfois nous-mêmes citoyens nous dépassent, donc et qui appartiennent à des champs qui sont maîtrisés par l'autorité du président de la République. Et là, je peux pas vous répondre encore comment quelle sera la façon d'agir hein, du président. Enfin, ce que je crois, c'est qu'Emmanuel Macron a certainement une envie à ce que les us et coutumes, en tout cas, de la Ve République. C'est ce qu'il dit, d'ailleurs. Il dit on incrimine les institutions. C'est pas tellement les institutions qu'il faut incriminer, c'est comment les hommes politiques qui sont dans les institutions et qui les dirigent se comportent. Donc, j'ose espérer que lui, ben, effectivement, il pourra... Parce que la Ve République n'exclut pas le débat, au contraire, n'exclut pas l'échange, la concertation, la réflexion territoriale, etc. etc.
D'accord. Donc, il nous reste deux petites questions avant, dans ces deux minutes. Vous avez parlé des salariés. Bon, là, à partir du moment où vous arrêtez 50%, ça veut dire que 50% de réacteurs nucléaires seraient toujours en activité au-delà de 2025. Vous savez que beaucoup de salariés du nucléaire s'inquiètent de la privatisation, on va dire, de la sous-traitance, etc. Est-ce que vous avez réfléchi justement à réintégrer tout ce problème de maintenance qui est aujourd'hui à 80% traité par la sous-traitance avec des conditions de travail qu'on connaît très difficiles, hein. Est-ce que vous avez pensé à cela? Est-ce que ça fait partie de votre programme?
Très franchement, hein, là je ne peux pas vous répondre dans le détail parce que ce serait présomptueux et pas correct, parce que c'est le genre de situation qui ne sont pas engagées encore. Donc, mais là aussi, je suis plutôt dans la logique de me dire... je fais confiance à cette volonté de faire les choses par l'échange, la concertation, et de penser d'abord à quel sera le plan de restructuration avant de prendre les décisions définitives.
D'accord.
Donc voilà, je...
Dernière petite question avant qu'on conclue, c'est toujours trop court, on aurait aimé pouvoir vous offrir à chacun des candidats beaucoup plus de temps, mais c'est bien, c'est un premier débat, pour une fois on parle du nucléaire. Dernière petite question sur le nucléaire militaire, vous savez que l'ONU vient de lancer un appel à l'arrêt de l'armement atomique. On sait que la France jusqu'à maintenant fait partie des pays qui bloquent toutes ces négociations internationales, très, très souvent, avec les Américains d'ailleurs. Est-ce qu'avec Emmanuel Macron, la France aurait une dynamique d'arrêt de l'armement nucléaire?
Mais je pense qu'il faut... Enfin, là, je ne parle pas pour Emmanuel Macron, je parle aussi pour moi. On a tous envie d'arrêter ça. La question, c'est que tant qu'il n'y aura pas un minimum de sécurisation des situations dans le monde, avec des risques de maîtrise du nucléaire militaire par des puissances qui ne sont pas maîtrisées, justement. Alors vous allez me dire pourquoi nous, on serait exemptés de ce processus par rapport à d'autres. Bon, il n'empêche que on a quand même une logique de respecter les règles onusiennes, hein, et les accords internationaux. Et personnellement, j'ai le courage de le dire, je crois que malheureusement, je dis bien malheureusement, la dissuasion a encore nécessité, parce que, même si ça ne me fait pas plaisir de le dire, parce que on vit dans un monde où l'indifférence, regardez le Yémen, regardez la République du Congo, regardez tous ces conflits qu'il y a partout, où nous on joue les hypocrites aussi, hein, vous le voyez bien, et voyez aussi tous ces pays qui ne sont pas maîtrisés et qui peuvent à tout moment, j'allais dire, prendre des options, mettre en place des politiques justement autour du nucléaire militaire sans maîtrise et aux grandes dames des peuples.
Eh bien, on va s'arrêter là. On a bien compris votre message. En tout cas, on vous remercie beaucoup, Monsieur Grégoire. Je rappelle donc que vous étiez le représentant de En Marche et représentant Emmanuel Macron, le candidat. Je pense que, bien comme pour tous les autres, nos auditeurs auront écouté et puis fait un peu pris leur position. En tout cas, bien écouté vos arguments. On vous remercie encore beaucoup et à bientôt.
Et
nous allons.
Pas simple pour moi.
Pas simple. Il n'y a pas de problème. Et nous partons avec une chanson de Frédéric Fromet.
J'ai tout plein d'amis au MEDEF. Ma religion c'est le B9. Pour faire du pognon je vendrai père et mère. Le laisser aller du pauvre m'exaspère. J'ai tout plein d'amis au MEDEF. Ma religion c'est le B9. Mon Dieu Dieu, c'est le patron qui vire, qui dégraisse et qui impunément se tire avec la caisse. Je gère mon foyer comme une entreprise, ma femme est employée à l'Ajax et au Plise. L'autre jour, elle a voulu faire grève, la feignasse, on aurait dit une fonctionnaire. Agiter le chiffon rouge ainsi, c'est dégueulasse, c'est prendre en otage la poussière. Je lui ai dit si tu gueules, je te délocalise. On verra si en Chine tu joues les insoumises. Quand on a la chance d'avoir un boulot, on s'écrase. J'en connais tant qui voudraient ta place. Je t'en prie ma chérie, ne me donne pas l'occasion de te lourder pour la chômeuse d'en face. J'ai tout plein d'amis au MEDEF. Ma religion c'est le bénef. La bourse c'est ma vie, j'ai une tronche de cac. Jean-Pierre Gaillard m'excite, c'est mon aphrodisiaque. J'ai tout plein d'amis au MEDEF. Ma religion c'est le bénef. Au-dessus de mon pieu je me suis fait un poster avec le Figaro et ses poches financières. Tu veux des RTT, tu veux des vacances, reprends ton balai, mets-le toi où je pense. Le temps libre c'est pour les poètes, les mollasses. L'homme s'épanouit dans le labeur. Me dis pas qu'avec ton aspiro tu n'es pas joisse, qu'il ne suffit pas à ton bonheur. Tu veux toucher une prime, tu veux une augmente, t'auras pas un centime, pense aux dividendes de nos actionnaires qui ne sont pas tous philanthropes, eux qui jugent plutôt d'un bon œil. Les plans de licenciement pourvu que ça rapporte des pépettes dans leur portefeuille. J'ai tout plein d'amis au MEDEF. Mon ennemi c'est l'ISF. Comme Florent Pagny, je m'en mets plein les fouilles. En pleurnichant maman, les impôts me dépouillent. J'ai tout plein d'amis au MEDEF. Ma religion, c'est le bénef. Je donne aux pièces jaunes, je ne suis pas un chacal. À un cul de jade, j'ai même filé un vieux futal. Tes acquis sociaux, tes droits et ta retraite. À petit coup de karcher, je les fais disparaître. Il n'y a pas que toi qui saches faire le ménage. Si on me donnait rien qu'un lundi de Pentecôte, dans le code du travail, je pourrais faire un carnage pour que tu sois corvéable à merci. Madame se rebelle, madame fait sa fofolle. Voilà qu'elle en appelle aux porteurs de banderoles. C'est pas tes syndicats qui vont me filer la frousse. Pas trois bolcheviques à la Bastille. C'est pas ta chienlit qui va gouverner. Allez, oust, en cœur chantons travail, patrie, famille. Optez. J'ai tout plein d'amis au MEDEF. Ma religion, c'est le bénef. Le fric, le pèse, le flou, ça me fait le zizi.
Eh bien, merci Frédéric Froment. Alors, nous avons contacté et nous regrettons de ne pas avoir pu donner la parole aux représentants de M. François Fillon, de Marine Le Pen et de M. Dupont-Aignan. Nous avons contacté à plusieurs reprises ces trois organisations et aucune n'a daigné nous répondre. Aucun de ces trois candidats n'a voulu participer à notre émission, manifestement. Alors, on a essayé de faire un tout petit résumé. Alors peut-être un petit peu moins gentil pour le coup, parce que les autres on les a laissés parler, mais eux, ben, on a regardé quand même leur programme sur le nucléaire, parce qu'ils risquent d'être les uns et les autres notre futur président de la République ou présidente de la République, et c'était quand même intéressant de savoir ce qu'ils disaient. Ce sont trois candidats qui sont pro-nucléaire, modelés par les idées du siècle dernier, comme dit une de mes petites camarades. Le nucléaire, dixit, le nucléaire est une énergie propre parmi les moins polluantes et les plus sûres, permettant l'indépendance de la nation. Ça, c'est François Fillon qui dit ça. Madame Le Pen dit, je le dis tout de suite, nous ne comptons pas abandonner le nucléaire. Au contraire, il faut en permanence l'innover et le sécuriser. Abandonner le nucléaire aujourd'hui serait pour la France se tirer une balle dans le pied vu les services que cette énergie nous rend. Pour M. Fillon encore, le nucléaire, c'est notre filière d'excellence. Pour eux, pas question de fermer Fessenheim. François Fillon en dit, le nucléaire est une richesse française, il faut moderniser le nucléaire et surtout ne pas fermer les centrales. On ne fermera donc pas la centrale de Fessenheim. François Fillon toujours et Dupont-Aignan remettent même en cause l'objectif de 50% de nucléaire dans la production de moins 50% de nucléaire dans la production d'électricité qui avait été décidé par le gouvernement précédent. François Fillon souhaite revenir à 75%, tandis que M. Dupont-Aignan veut lancer un plan de développement de la filière thorium qui permettra l'élimination des déchets nucléaires par transmutation. Voilà qui devrait faire rêver, ou pour nous plutôt cauchemarder. Nos trois candidats sont pleins d'espoir pour le nucléaire quatrième génération qui, dixit François Fillon, permettra de régler le problème des déchets qui seront alors recyclables. Mais en attendant, ils nous proposent gaillardement de prolonger nos centrales de 20 qui ont déjà 30 ans jusqu'à 60 ans, voire plus. Et oui, les 58 réacteurs nucléaires en service ont déjà été amortis et fonctionnent dans des conditions de sécurité satisfaisantes, affirme François Fillon. Petite parenthèse de notre part, il ne connaît manifestement pas le coût du grand carénage, des visites décennales des 40 ans, etc. Je le disais tout à l'heure, plus de 100 millions d'euros par réacteur, c'est-à-dire des sommes considérables pour ne serait-ce que prolonger de 10 ans chacun de ces réacteurs. Madame Le Pen et M. Dupont-Aignan croient, eux, à la main salvatrice de l'État, pour qui, pour Marine Le Pen notamment, doit redonner une véritable mission de service public à EDF et en garder le contrôle. M. Dupont-Aignan, lui, fusionnerait EDF à GDF et les renationalisant à 100%. En cela, on pourrait les rejoindre, quoique si c'est pour refaire la grosse industrie EDF, très bureaucratique et qui n'écoute personne, on n'est pas sûr que nous soyons là non plus d'accord. Rien n'est dit sur les capitaux à trouver pour colmater le gouffre financier qui est déjà celui d'EDF aujourd'hui. Je terminerai par un point commun que vous imaginez tous et qu'on a compilé en une seule phrase. Il faut maintenir la dissuasion militaire à un haut niveau de performance, préparer sa modernité. C'est le fondement de notre stratégie de défense, la garantie ultime de la sécurité et de l'indépendance nationale. Aucun d'entre eux ne se prononce donc sur les propositions nouvelles de l'ONU d'en finir avec l'arme atomique, ni ne disent si avec eux on en finira avec les blocages de la France depuis de nombreuses années dans les instances onusiennes. Voilà, vous avez un petit résumé de notre part sur la position nucléaire de ces trois partis. Je dois dire aussi, pour être honnête, que nous n'avons pas contacté les deux autres petits candidats, Monsieur Asselineau et le dernier, j'ai perdu son nom, et Monsieur Cheminade, pour une raison simple, c'est que l'un et l'autre expliquent qu'ils n'ont pas de position sur le sujet. Donc, leur donner 10 minutes pour nous dire qu'ils n'avaient pas de position, on a considéré que c'était pas qu'on perdrait notre temps et eux aussi probablement. Mais on vous renvoie sur d'excellents échanges et rapports qui ont été faits, notamment un très très intéressant, deux d'ailleurs très intéressants, celui de Greenpeace et celui du groupe Sortir du nucléaire. L'un et l'autre ont repris les propositions de chacun des candidats et les ont classés par ordre anti-nucléaire jusqu'à très pro-nucléaire, et avec un bon travail très exhaustif sur l'ensemble de ces candidats. Voilà, et bien maintenant nous allons passer à notre agenda.
Alors l'agenda pour le mois d'avril, il est rapide. Notre AG se tiendra le samedi 22 avril, rendez-vous à 14h à la Maison des Sociétés à Valence, salle 31. À la fin de l'AG, présence de Cézine Topsou pour discuter avec elle de son livre « La France nucléaire ». Alors, Cézine Topsou, c'est une chargée de travail au CNRS, une chargée d'études, et son livre est vraiment très très intéressant.
Oui, qui est trouvable en librairie et tout, ouais. Ça maintenant, et on le conseille effectivement. On en fera peut-être une lecture, ouais, lors de nos journées d'été.
Parce qu'elle explique comment le nucléaire s'est développé en France et comment aussi il y a eu une opposition au nucléaire. Chaîne humaine à Lyon le 29 avril à 15h, place Bellecour. Réunion mensuelle à la Frapna le 24 avril. Et toujours la présence des obstinés tous les samedis matins, place Porte Neuve à Valence à 11h. Voilà, chers auditeurs.
Alors rappelez aussi que la chaîne humaine, là il y a toute une série de chaînes humaines, dont une très belle à Valence, et que ces chaînes humaines continuent pendant toute la période anniversaire, on va dire, entre Fukushima et Tchernobyl. Ouais. Je vous rappelle que vous pouvez nous joindre très facilement par notre répondeur, laisser des messages au 08 05 69 67 58. L'appel est gratuit. Aujourd'hui, on n'était pas très nombreux. C'est la campagne électorale, hein, manifestement. Jean-Pierre, bien sûr, toujours à la technique. Jeanne qui a fait les messages, Dominique aujourd'hui et Georges qui est parti là mais qui nous a fait toujours sa rubrique Fukushima. Notre prochaine émission sera le 1er mai 2017 avec, et notre émission bien sûr est rediffusée sur d'autres radios, des Clic Radio, Radio DWA, etc. On vous rappelle également que vous pouvez être à l'écoute un peu de nos radios, des actions antinucléaires, on a dit des chaînes humaines, etc. Mais vont continuer, notamment dans notre département, dans le courant du mois. On pourra vous en dire plus un peu après, on peut pas trop les annoncer maintenant. Mais il est bien sûr évident que pendant toute cette campagne électorale, l'activité de Stop Nucléaire Drôme Ardèche et d'autres groupes membres du collectif Arrêt du Nucléaire ne vont pas s'arrêter. Et je pense que vous entendrez parler d'un certain nombre de choses. Et nous allons vous quitter un tout petit peu en avance, mais avec la chanson de Kerry James, Racaille. Et ça n'a rien à voir avec les candidats à la présidentielle.
Vous en avez assez, hein ? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser.
Racaille ! On devrait vous nettoyer au Karcher. Le jour où le peuple se réveille, vous allez prendre cher. Racaille ! On a le sentiment qu'aller voter, c'est choisir par lequel d'entre vous on veut se faire entuber. Racaille ! Républicain ou PS, rangez vos promesses dans vos sacs kermesses. Racaille ! Vous n'avez jamais connu la précarité. Vous vivez à l'écart de nos réalités. Racaille ! La rue le pense, je le mets en musique. Et pour ceux qui l'ignorent encore, je le rends public. Je ne soutiens aucun parti, je marche plus dans vos combines. Vos programmes électoraux ne sont que des comptines. On prend les mêmes et on recommence. Les mêmes promesses, les mêmes mensonges. Les mêmes tapes dans la caisse, les mêmes plonges. Les mêmes sons dans la hesse, les mêmes manges. Les mêmes menteurs, trafiquent les mêmes comptes. Les mêmes commis au service des mêmes pontes. Les mêmes fils de pauvres sont incarcérés. Les mêmes fils de riches sont formés pour régner. En attendant qu'un homme du peuple émerge, c'est rare de trouver un élu avec un casier vierge. Ma haine du système est toujours intacte. Lequel d'entre eux peut jeter la pierre à Cahuzac ? Claude Guéant, Balkany, Jean-François Copé, Philippe Bernard, Harlem Désir, Alain Juppé. Tous ceux que j'ai cités ont été condamnés. Ce sont les mecs de cité qui traitent comme des damnés. Vous étiez choqués par le groupe Tandem. Vous faites la même à la France, mais jusqu'à ce qu'elle saigne, jusqu'à ce qu'elle coule, comme la Grèce ou l'Italie. Vous avez meurtri le pays jusqu'à l'agonie. Cumul des mandats jusqu'où vous irez. Est-ce le cumul des salaires que vous désirez? Comme toute la France d'en bas, je crois plus aux politiciens. Je continue le combat, je crois au réveil citoyen. Pour changer les choses, il faut le vouloir. Vous n'avez pas de cause profonde si ce n'est le pouvoir. Vous faites de la politique sans conviction. Parfois vous en faites même pour éviter la prison. En costume cravate sont les vrais voyous. Vous ne croyez plus à rien, plus personne croit en vous. Y'a qu'à observer les taux d'abstention. Faut pas trop prendre les gens pour des cons, attention. Sentez-vous le vent tourner comme vos vestes. Entre vous et la rue, y'a plus que les CRS. À bout de souffle, votre système est dans un cul-de-sac. À essayer de te battre comme un cul-de-chat. Vous êtes élu pour un truc, vous ne le faites pas plus. Vous faites l'inverse, en plus ça ne vous gêne pas. Et si le peuple a l'idée de se rebeller, vous disposez d'une armée de flics bien dressée et zélée. Le dialogue social, j'ai dans un cercueil. Les keufs tirent au flashball, tu peux y perdre un œil. Vous faites monter le sentiment anti-policier. Usez de la police comme d'une armée privatisée.
Le politique, qu'il soit femme ou homme, pour moi en tous les cas, et pour l'instant, peut-être que demain j'aurai changé d'avis, il ne sert plus à rien. C'est un prestataire de service. Ces putains de dettes là qui emmerdent tout le monde, qui mettent les peuples à plat, qui les mettent à genoux et ainsi de suite, on n'arrive pas à les éliminer. Comme vous les politiques, vous n'arrivez pas à les faire éliminer. Ces putains de dettes, parce que la banque elle est plus forte que vous.
La banque elle est plus forte que vous. La banque elle est plus forte que vous.
Tout le monde le sait, c'est une évidence. Vous êtes complètement soumis à la finance. Vous votez les lois que les riches ordonnent. Après le 49-3, plus rien ne m'étonne. On travaille plus mais on gagne moins. On attend juste le printemps européen. On cotise pour des retraites qu'on ne verra peut-être jamais. Tout l'argent qu'on fait rentrer, vous nous le reprenez. Chaque fin du mois à découvert, on a l'impression d'être esclave du système bancaire. Les plus riches connaissent le jeu, jouissent de niches fiscales. Les petites PME croulent sous les charges sociales. Radar, on paye, péage, on paye, pollution, on paye. Oh, qu'est-ce que vous faites avec tout ce fric? Que foutait Eric Zemmour sur une chaîne publique? Payé pour propager sa haine, semer des graines récoltées par le FN. Pour vous-même, Marine Le Pen est devenue fréquentable. Qui qu'on combat l'islam peut s'asseoir à votre table. Incapable de gouverner, vous divisez. Incapable de rassembler, vous stigmatisez. Aveuglés par le pouvoir, vos cœurs sont voilés. Beaucoup plus que le visage de cette femme voilée. Que vos prétendus principes de laïcité ne concernent pas cette saoudienne sur les Champs-Élysées. Pour vous tous négocie, tout est question de genre. Vous êtes même prêts à livrer des banlieues au Qatar. Votre jeu est trouble. Votre discours est double. Au pays dit des droits de l'homme. L'état d'urgence est devenu la norme. Et vous prétendez faire la leçon au monde entier. Imposer la démocratie à coups de mortier. Sans pitié, vous avez buté Kadhafi. Aujourd'hui, dans quel état se retrouve la Libye? La roue le sait, je le mets en musique. Vos médias le taisent, je le rends public. Je vous tiens tête comme un mec des minguettes. Est-ce le genre de texte qui peut me valoir une fiche S? Droit dans mes bottes, je ne baisse jamais mon froc. La tête haute, je suis intègre. Je fais du hip-hop, vous appelez ça de la musique nègre. Genre en indé, tu me verras plus jamais mettre les pieds à Skyrock. Ils n'aiment pas ce que je suis, ce que je défends, ce que je porte. C'est réciproque. Ils ont travesti le RAP. Je fais partie des rescapés. Ils ont encensé la médiocrité. Ils ont fait du hip-hop de la variété. Ils ont joué les clashs pour nous diviser. Tant que ça fait de l'audience, on peut s'allumer. Quand un rappeur se fera buter, ils organiseront un concert au nom de la paix. Yeah, je fais de la musique contestataire. Vous vendez des espaces publicitaires. Je me suis sacrifié pour mes petits frères. Vous vous jouez des trucs qui les envoient au cimetière. Fric et violence dans vos playlists. Vous abrutissez les miens, ça plaît aux élites. Vous vous êtes servi de moi, je me suis servi de vous. Pour que mon message passe au plus grand nombre, maintenant je peux le faire sans vous. J'ai un public qui me soutient. J'ai fait des choses, le peuple s'en souvient. La roue vous vomit, je le rends public. Rien n'a changé depuis l'être à la République.